cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 27 octobre 1994.
Il y a deux types de questions. Le véritable amour d'amitié me semble si beau et si sublime qu'il ne peut exister que pour Jésus. Je comprends très bien. Vous avez un... Est-ce qu'un tel amour d'amitié est possible d'une manière totalement profane? Profane, qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement? Humaine, mais t'es humaine et pas profane. C'est sûr, l'homme, puisque l'homme est à l'image de Dieu, là, vous voyez, vous répondez en parlant de Dieu, donc au plan chrétien. Au plan chrétien, je suis persuadé qu'étant créé à l'image de Dieu, Dieu veut qu'il y ait en moi une capacité d'aimer mon prochain, d'aimer l'homme. Dieu l'aime. Si Dieu l'aime d'un tel amour, alors ça je peux le dire au point de vue chrétien, au point de vue philosophique, non, je ne parle que de mon expérience. Je vois que dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui a soutenu l'homme à travers tous les périls, c'est l'amitié qu'il avait avec tel autre homme. Même dans l'écriture, David et Jonathas, c'est quand même révélé. Il y avait entre David et Jonathas une amitié prodigieuse. Il suffit d'écouter ce que David dit lorsque Jonathas meurt. C'est sublime. C'est merveilleux. Le cantique des cantiques. Ça existe, que ce soit rare. C'est sûr. Mais ça existe. On a tous rencontré dans la vie. Je prenais le dernier, vous voyez, le livre, le dernier livre, donc ce livre posthume de Camus. Pour moi, c'est l'illustration nette qu'un homme comme Camus est passer toutes les difficultés, et c'est d'autant plus éloquent qu'il n'y a rien de religieux dans sa jeunesse. Rien. Il n'y a rien de chrétien, rien de religieux. Et que l'amitié qu'il a eue pour ce professeur lui a permis de dépasser toutes les difficultés. Et l'amour qu'il a eu pour sa mère, un amour d'amitié aussi, lui a mis de la joie dans le cœur. Et ça, c'est net. C'est tout le livre à ce point de vue-là. C'est, pour moi, c'est palpable, un livre comme ça. C'est étonnant. Là, vous voyez, et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Vous voyez, il faut essayer de comprendre dans la vie d'un homme qui est en dehors du point de vue chrétien, explicitement. Qu'est-ce qui l'a maintenu? C'est l'amitié. Un homme qui l'a aimé gratuitement. Et l'autre a répondu progressivement. Et ça a continué. Jusqu'à la fin de sa vie, il allait à Alger retrouver son professeur. C'est quand même très étonnant, ça. Et c'est magnifique, alors. Et c'est pas l'amour de Jésus. Votre expérience soit ça, si vous avez été élevé dans un milieu chrétien, je comprends très bien. Mais comme dit Thomas d'Aquin, le soleil ne supprime pas la bougie. C'est pas parce que le soleil existe que la bougie n'existe pas. Il y a une petite lumière d'amour, d'amitié en nous. Même si le soleil existe, et je dirais d'autant plus que le soleil existe, si j'aime vraiment Jésus, j'aime mon prochain comme Jésus l'aime. Et aimer son prochain comme Jésus l'aime, c'est l'aimer divinement. Et le divin demande de s'enraciner dans l'humain. Autrement, c'est du fidéisme. Il y a un fidéisme pratique qui consiste à dire, il n'y a que l'amour du Christ. Non, pas du tout. L'amour. aimer vraiment quelqu'un qui ne soit pas capable de gratuité. Parce qu'il ne serait pas un homme. Un robot ne sait pas ce que c'est que la gratuité. Il est dans l'ordre de l'utilitaire. L'amour implique la gratuité. L'amour spirituel. L'amour passionnel, non. Mais l'amour spirituel implique la gratuité. Et donc, ce que j'aime chez l'ami, c'est qu'il soit vraiment parfaitement lui-même. Un être spirituel, capable d'aimer. Et donc, qu'il m'aime lui aussi gratuitement. Alors, je ne vais pas le forcer, non. Mais je sais que l'amour d'amitié ne peut être parfait que s'il y a cette réciprocité. Alors, cette réciprocité est quelque chose de très grand. Parce qu'au fond, je ne peux aimer parfaitement quelqu'un en lui-même que si j'ai totale confiance en lui. Et je ne peux avoir totale confiance en lui que s'il m'aime dans cette gratuité. Oui, c'est là où je saisis la personne. C'est pour ça que la gratuité, l'amour de réciprocité n'est pas de l'ordre utilitaire. L'amour de la réciprocité est de l'ordre de l'amour. C'est l'amour qui réclame l'amour. Parce que la seule réponse à l'amour, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre réponse. La réponse à l'amour n'est pas l'intelligence, n'est pas le raisonnement, n'est pas la flatterie. C'est l'amour. Alors que ce soit rare, ça je suis d'accord. Mais je dirais en terre chrétienne, ça devrait exister tout le temps. En terre chrétienne, l'amour d'amitié merveilleux d'un saint Augustin par rapport à sa mère et de sa mère par rapport à lui, c'est merveilleux. L'amour d'amitié entre Thomas d'Aquin et Réginald, c'est merveilleux. L'amour d'amitié entre saint François et Marmanique, mais c'est merveilleux. Mais tous les grands saints témoignent de cela. C'est quand même quelque chose que ça envoie du chrétien. Et si je regarde l'Antiquité, je retrouve la même chose. Et si je lis le traité de la Philia d'Aristote, qu'il faut avoir lu ça, je ne dis pas en première année, mais en seconde année, traité de la Philia d'Aristote, la plume à la main avec l'analyse, parce que c'est un traité. Et que le livre s'étend, il est de la peine de le comprendre. Avicenne l'a lu 50 fois. Donc, dites pas que vous avez tout compris, l'ayant lu une fois. Que le livre s'étend, il est de la peine à lire, je comprends. comprendre ce qu'est Dieu, il faut comprendre son amour, sa miséricorde. C'est ça qui donne le sens du reste. C'est toujours la connaissance du sommet qui fait comprendre la base. Alors que vous compreniez que, selon l'ordre génétique, la base est très importante, tout à fait d'accord, c'est très très important. Tout l'édifice repose là-dessus. Mais c'est pas ça qui me donne le sens de l'édifice. Regardez la base de la tour Eiffel. Hein, vous la voyez pas, elle est cachée. Mais c'est pas là, c'est pas parce que la base elle est cachée que vous ne connaissez pas le sommet. Sur le périphérique. C'est le périphérique. aiment la psychologie, ça leur permet de parler et de convaincre. Et le philosophe dépasse la psychologie, il atteint la personne. Donc, voyez bien l'importance de l'expérience de l'amour d'amitié. Il y a dans l'homme quelque chose de plus. L'homme, non seulement se dépasse dans son ami, mais l'homme est capable de se dépasser dans celui qui est son créateur. Voyez les deux grands dépassements de l'homme, l'ami et Dieu. L'ami me permet de me dépasser. Et ça me permet de me dépasser au point de vue purement humain. Et j'ai une autre expérience que je n'ai peut-être pas moi-même, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes qui n'ont plus cette expérience, mais que je sais que certains, et que je peux découvrir en moi-même, l'expérience de l'adoration. C'est les deux grandes expériences humaines, et typiquement humaines, l'amour d'amitié, l'adoration. Dans l'amour d'amitié, je me dépasse dans mon ami. Je me quitte dans mon ami. Et c'est l'ami qui est mon repos. Dans l'adoration, c'est le Créateur qui est mon repos. Et alors, je me dépasse encore beaucoup plus radicalement. Vous voyez, si je ne le fais pas, rappelez-le-moi, il y a les deux grands dépassements, l'amour d'amitié et l'adoration. C'est intéressant de voir que l'éthique n'existe que dans ce dépassement. Après, se demander pourquoi, vous voyez. Ces deux dépassements montrent les deux niveaux de l'éthique. Mais il y a deux dépassements. Et tant qu'il n'y a pas ce dépassement et l'expérience de ce dépassement, je ne sais pas ce que c'est que l'éthique. Je n'ai aucune expérience de l'acte moral. Oui, il y a un dépassement plus radical qu'est le dépassement de l'artiste à l'égard de son œuvre. Mais ce dépassement n'est pas total. Un artiste qui se mettrait à genoux devant son œuvre, on dirait pauvre type. Pauvre type. Il adore l'idole. C'est ça l'idole. C'est l'artiste qui se met à genoux devant son œuvre. L'homme a créé des idoles pour se mettre à genoux devant ses idoles. Alors, c'est terrible. C'est l'homme qui se diminue lui-même, puisque l'œuvre est plus petite que lui. C'est un certain dépassement, je veux bien. L'œuvre est un certain dépassement de l'homme. C'est pour ça que Malraux dira que l'œuvre est le destin de l'homme. Il y a quelque chose de vrai. Alors c'est le dépassement de l'artisan qui fait des sabots. L'artisan qui fait des sabots et qui se met à genoux devant son sabot. Pauvre type. Les sabots, c'est fait pour mettre à ses pieds. Et l'œuvre, même quand elle est très belle, elle n'est pas faite pour qu'on en le considère comme l'idole. Mais c'est intéressant de regarder ce dépassement radical et matériel. Si la matière était l'absolu, l'œuvre d'art serait l'absolu. Parce qu'au moins je la transforme, cette matière. Je l'ai manipulée. Elle est devenue sabot. La matière ne devient pas normalement sabot. Donc, il y a un petit dépassement. J'ai mis l'empreinte de mon idéa. Dans l'amour d'amitié, je me dépasse. Je suis dépassé par l'ami. Non pas à cause de ce qu'il fait. Non pas à cause de ses vertus. Mais à cause de ce qu'il est comme ami. Et enfin, troisième dépassement, le second fond. l'œuvre propre de l'être premier, c'est moi-même et ce lien qui existe entre moi et l'être premier. Il a pour fondement la création. L'écriture, la tradition judéo-chrétienne emploie un mot particulier pour exprimer cet acte de l'être premier, de Dieu par rapport à moi, par rapport à l'homme, par rapport à la femme, par rapport au monde. Alors, vous voyez bien, c'est très important de saisir les deux fondements de l'adoration. Les traditions religieuses. Les traditions religieuses. Et quand je suis en présence de la laïcité qui supprime ces traditions religieuses, considère que ces traditions religieuses, c'est bon pour l'enfant et que ça n'a rien à voir avec l'homme positiviste, l'homme laïque, dans toute sa dimension. Je trouve ça lamentable et je dois le dire. On mutile l'homme. L'homme, dans toute sa dimension, les traditions religieuses qui viennent de lui et qui lui montrent d'une manière symbolique ce pourquoi il est fait. Vous êtes farouche là-dessus aujourd'hui, parce que la laïcité reprend avec une vigueur Ça, c'est sûr. Et une haine très très forte. Je crois qu'il faut qu'on prenne ça avec une très grande netteté. Pas seulement au point de vue de la foi. Ce serait du fidéisme. Au point de vue de l'intelligence. Comprendre que c'est le salut de l'homme. De comprendre d'où il vient. Puisqu'il est capable de retrouver ça. J'ai vu des personnes arriver à l'âge de 18, 19 ans qui savaient qu'elles avaient été adoptées dès leur jeune âge, vouloir à tout prix découvrir leur père et leur mère. C'était très émouvant. Ça fait partie de ces... Vous voyez, dans Camus, il y a ça. Cette nostalgie de redécouvrir d'où on vient. Quant à notre devenir corporel, c'est normal, ça. On ne voit pas ce qu'apporte pour nous le fait de connaître son père et sa mère. Même si on est dans nos positions, il y a quelque chose de plus radical que toutes les oppositions, c'est qu'on découvre une source. La source du père, la source de la mère. Même si ces sources sont un peu polluées, conséquence du péché originel, ça n'a pas d'importance. La pollution, c'est contingent. Il faut découvrir quelque chose de plus. Ça, c'est très, très important. Et alors, transposer ce que peut-être le fait de ne jamais découvrir la source de mon esprit, la source véritable de mon âme spirituelle. Découvrir l'existence de l'être premier comme créateur. C'est ça qui me donne la stabilité radicale et mon indépendance radicale. Je ne dépends pas radicalement de mes parents. Je dépends radicalement du créateur qui a créé mon âme. Mon âme a été créée par Dieu, pas par mes parents. Et donc je découvre à ce moment-là, voyez, comment le cordon ombilical spirituel est coupé. C'est avec Dieu, en définitive, que je m'arrange le mieux. Et c'est merveilleux de découvrir ça. Parce que, en définitive, c'est Dieu qui me connaît radicalement. Il est mon père. Il est ma mère. C'est avec lui. Et c'est cela qui me permet de réaliser cet acte d'adoration. Et cet acte d'adoration me met dans la vérité pratique. La vérité pratique, c'est que, étant une créature, je reconnais ma source. Et je me mets laïcité. Découvrir que je dépends de Dieu radicalement, foncièrement, c'est la plus grande délibération. Parce que Dieu n'est pas un tyran, il est un père. Parce que Dieu a tout fait par pur amour, dans la gratuité pure. Vous voyez, c'est là où commence cette nouvelle dimension de l'éthique, qui est l'éthique religieuse. En faisant l'éthique religieuse, nous espérons de la laïcité française. Parce que les autres laïcités des autres pays n'ont pas cette virulence française. C'est très curieux, ça. Parce que c'est typiquement français, ça. Ça n'existe pas autre part. Ça n'existe pas en Amérique. Ça existe en France. Et peut-être en Espagne. Parce que la théologie de la laïcité, la théologie de la libération est espagnole. Avant tout. Un peu portugaise, le Brésil. Mais c'est